Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What time is it? Yeah, time is it? Yeah,
got gun. Holt left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 579 du podcast Touchdown Actu. Alors Mathéi, très heureux de vous retrouver pour parler des finales de conférence NFL. À mes côtés, Victor Roulier. Bonjour Victor.
Hello Alain, bonjour à tous.
Victor, on se prépare cette semaine à deux finales de conférence qui s'annoncent quand même plutôt très très belles. On n'a que deux matchs, c'est un programme court mais ça va être, on va parler de choses passionnantes.
Bah écoute, c'est juste 2-50-50. C'est juste 4 équipes où tu me demandes aujourd'hui leur chance de remporter Super Bowl. Je pense que je mets 25% à tout le monde. On verra si ça se traduit sur le terrain. Mais clairement, aujourd'hui, on a deux matchs qui, sur le papier, sont formidables.
Je crois que d'ailleurs, 25% de chance pour tout le monde, c'est à peu près la tendance actuelle chez les bookmakers américains.
Enfin, oui, je crois que ça va entre 27 pareil, et 23. Quoi.
Ouais,
je crois que le maximum c'est 27 et le minimum 23.
Ouais. Oui, donc tout le monde est très proche au niveau des pronostics. On va donc parler de tout ça, on va faire dans l'ordre, hein, comme on a fait un petit peu les previews et les débriefs ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on va faire dans l'ordre des choses où ça va se jouer et on commence dès maintenant avec la finale. NFC, pardon, je m'embrouille, petit jingle de mise dans l'ambiance.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
Here we go, work on three. One, two, three, work!
On commence donc avec la NFC, ce sera dimanche 29 janvier à 21h, premier match entre les Philadelphia Eagles, tête de série numéro 1, les San Francisco 49ers, tête de série numéro 2, c'est logique. On commence donc avec cette opposition, qui pourrait être un match très défensif, Victor ?
Très défensif, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux équipes ont des clés défensivement pour ralentir l'attaque en face. Et ces deux équipes qui n'ont pas forcément rencontré des équipes qui disposaient justement de ce matériel. Donc effectivement, ces deux équipes qui ont le potentiel, entre guillemets, de se neutraliser, il y a très peu de points faibles, puisqu'on parle des deux meilleurs effectifs de NFL. Aucune de ces deux équipes n'a Mahomes ou Burrow, c'est vrai, mais en termes global. Ces deux effectifs ultra complets, ça va être un affrontement terrible.
Notamment parce que il y a deux défenses, tu parlais d'effectifs complets, il y a deux défenses qui sont énormes. Yard autorisé en saison régulière, San Francisco premier, Philadelphie deuxième. Sac en saison, Philadelphie premier. Différentiel de ballon volé perdu, San Francisco premier. Point encaissé, San Francisco premier. Je vais mettre les pieds dans le plat. Quand on a deux grandes défenses, l'idée c'est de regarder qui a le meilleur quarterback. Et là, on semble quand même aller vers Jalen Hurts.
Sur le papier, oui. Je pense qu'en effet, en tout cas, dans le système actuel, Jalen Hurts, on va dire, il prouve depuis 2 ans qu'il est en progression constante. Purdy aujourd'hui est une histoire extraordinaire, mais ça ne fait jamais que 7 matchs qu'il est là. Il n'a pas été flamboyant, sans être catastrophique, contre Dallas. Je suis d'accord que On pourrait considérer que les Eagles ont avantage. Après, si je me focalise d'abord sur l'attaque des Niners, il faut se dire que les Eagles, ils ont souffert contre quoi cette année ? Contre des équipes qui jouent au centre du terrain et contre des équipes qui courent très bien. Les Niners, ils ont McCaffrey Mitchell en coureur et des schémas de bloc qui permettent d'avoir un bon jeu de course. Et au milieu du terrain, ils ont Kittle, ils ont Samuel qui peut jouer sur le milieu de terrain. Donc, il y a quand même des armes pour, on va dire, déranger un peu cette défense des Eagles. Mais oui, sur le papier, Jalen Hurts est supérieur à Brock Purdy à l'instant T.
Est-ce qu'on peut dire que ces deux attaques qui sont un peu similaires dans l'idée d'attaquer au sol et de pouvoir en tout cas être polyvalent, mais d'asseoir le sol notamment, et que Philadelphie semble avoir un peu plus de puissance de feu à la fois au sol et dans les airs, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu au-dessus quand même dans les deux catégories, que c'est une meilleure attaque au global.
Bah écoute, moi, pour moi, il y a une chose qui... Autant, tu vois, sur des cibles, bon, on peut dire Samuel Ayuk d'un côté, Brown, Smith de l'autre, Kittle d'un côté, Goddard de l'autre, McCaffrey d'un côté, Sanders de l'autre, enfin, ce que tu veux, même si McCaffrey est un peu supérieur à Sanders. Mais pour moi, la clé, c'est que la ligne des Eagles, la ligne offensive, aujourd'hui, c'est la numéro 1 de la Ligue. Et que, malgré tout, la ligne défensive des Niners... Je trouve que parfois, elle souffre un peu au centre. On l'a vu contre Dallas. McClinchey en tackle droit, c'est pas forcément la sécurité sociale. Alors, on a Trent Williams, hein, qui est le meilleur lineman de la Ligue. Aucun problème sur le côté gauche. Hein. Mais sur le côté droit, tu vas devoir gérer un problème qui s'appelle Hassan Reddick, qui était un candidat au défenseur de l'année, qui est un joueur absolument terrible et qui a encore fait une performance incroyable contre les Giants. Est-ce que cette ligne offensive va réussir à contenir non pas un, non pas deux, mais 5, 6, 7, 8 linemen offensifs des Eagles, linemen défensifs, pardon, qui en plus tournent, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas un lineman en général qui joue plus de 60% des snaps, hein, donc ce n'est pas des mecs qui sont fatigués à la fin du match, enfin, pas fatigués, tout étant relatif par ailleurs, mais en tout cas peut-être moins que d'autres équipes qui ont des vrais titulaires établis. Et je pense que la clé pour les Eagles, ça va être de profiter de cette ligne moyenne plus, on va dire, et d'essayer de mettre maximum de pression sur Brock Purdy.
Donc là, t'es passé déjà en défense. Hein. Tu voyages. Je te lançais sur les attaques.
Pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, l'attaque des Niners, s'il fallait trouver un point d'interrogation, pour moi, c'est la ligne offensive et notamment l'intérieur de la ligne offensive qui va devoir contenir Hargrave, qui va devoir contenir Reddick, qui peut attaquer à l'intérieur. Sweat, dont on le voit souvent attaquer vers l'intérieur. Donc, il va falloir que Banks, Brendel et ces joueurs-là sortent vraiment un gros, gros match.
Alors, pour rester là, tu le disais, Philadelphie pourrait profiter de ça, de cette ligne offensive, etc. Après, Brock Purdy, il est peut-être moins bon que Jalen Hurts sur le papier, mais il a quand même un coach et des joueurs pour déjouer la pression. On a l'impression qu'il a beaucoup de joueurs pour jouer vite et des soupapes de sécurité. C'est-à-dire que l'opposition que je voulais aussi amener entre les deux attaques, c'est que AJ Brown et Devonta Smith côté Philadelphie sont peut-être des receveurs plus traditionnels dans la profondeur, qui ont gagné beaucoup plus de yards. Hein. D'ailleurs, on est à 1400 pour Brown, 1100 pour Devonta Smith. Il n'y a aucun joueur des Niners qui est à ce niveau-là. Mais Purdy, bah, il peut filer des ballons rapidement à Kittle, à Ayuk, à Samuel, à McCaffrey. Ça peut être hop. Et ça peut l'aider beaucoup contre Philadelphie.
Ben oui, exactement. C'est-à-dire que finalement, Philadelphie, là où ils ont été mis parfois en difficulté cette année, c'est sur justement les yards après réception. Parce que c'est pas l'équipe qui plaque la meilleure de la ligue, hein, on va le dire. Des mecs comme Darius Slay, excellent cornerback par ailleurs, c'est pas un excellent plaqueur. Et en effet, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai à minima deux soupapes de sécurité qui sont Deebo Samuel et George Kittle. Il faut, si je me sens en pression, il faut que je les trouve. Et ils se chargeront de transformer un gain de 3 yards en gain de 6 yards, un gain de 6 yards en gain de 10 yards, etc. etc. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut absolument que les joueurs soupapes de sécurité, comme tu les appelles, et c'est exactement la bonne définition, puissent en effet offrir des alternatives et gagner des yards après réception.
Du coup, ça limite le côté facteur X de Brock Purdy ?
Ah, moi, je ne pense pas que Brock Purdy soit un facteur X dans ce système. Hein. Moi, je pense que tu peux argumenter que George Kittle ou McCaffrey sont des facteurs X. Je n'ai pas l'impression que le match se gagnera ou perdra avec Purdy. Alors oui, bah, bien sûr, s'il craque et qu'il lance 4 interceptions, OK. Mais bon, on a vu que c'était pas... Ça n'a jamais été le type du bonhomme. Hein. Même à Iowa State, c'est un game manager. Je ne vois pas craquer mentalement. Je ne pense pas que ça soit lui de Factor X. Ça sera tous les autres skill players.
Dans ce cas-là, ça veut dire que quoi ? parce qu'il y a un moment quand même, Brock Purdy, c'est un joueur qui a débuté 7 matchs cette saison, qui est rookie. Est-ce que t'as une crainte si je te dis, je sais pas, je dis t'as une crainte en tant que observe, si tu supportes les 49ers, si t'es supporter des 49ers, est-ce que t'aurais une crainte si je te dis, bon bah il reste, je sais pas, ils ont 10 points de retard au milieu du 4ème carton et il va falloir passer quoi.
Oui, c'est sûr que c'est pas, ça serait pas idéal. Après, pour avoir 10 points de retard, faudrait que la défense ait quand même encaissé beaucoup de points. Et tu l'as dit en introduction, ça risque d'être un match défensif. Donc, je suis pas sûr que ça se joue à ce niveau-là. Mais oui, c'est sûr que c'est pas le créateur absolu, surtout en année rookie. Même un premier choix de draft, t'attendrais pas en année rookie qu'il porte littéralement toute l'équipe sur ses épaules. Donc, il est en train d'apprendre. Mais je pense qu'en effet, une des clés, ça va être de faire la course plutôt devant pour les Niners.
13 touchdowns, 4 interceptions en saison régulière pour Brock Purdy en 5 matchs. 2 matchs de playoff, 3 touchdowns, aucune interception. Donc, ce sera, en tout cas, ça reste une des curiosités, même si son impact et sa capacité de nuisance est limitée, alors en dehors des pertes de balles, etc., évidemment. Hein, mais c'est vrai qu'on évoque peu ça, gagner la bataille des turnovers, etc., mais c'est un peu tarte à la crème, on va pas le faire pour tous les matchs. Je pense que c'est évident si tu perds
moins gagner de ballon. Gagner l'horloge et pas perdre de ballon, dans 100% des matchs en NFL, c'est important.
Voilà, donc on va pas le rappeler à chaque fois, là ça me semble évident. On a quand même pas mal de choses, on le disait, intéressantes. Est-ce qu'il y a un avantage côté coaching, parce qu'on parlait beaucoup du système Shanahan, après 2 ans de Nick Sirianni, comment tu définis cette équipe des Eagles? On a l'impression que c'est un rouleau compresseur qui peut tout faire.
Oui, il y a un côté très greatest show on turf dans la manière dont attaque les Eagles, c'est-à-dire que tu défends la course, on va te punir dans les airs. Tu défends les airs, on va te punir à la course, tu vois.
C'est un peu moins aérien, quand même.
Un peu moins aérien, mais c'était pas... On est d'accord, mais c'est pas non plus le même quarterback. Hein.
Non, je sais ça, que tu aimes beaucoup Kurt grand... Warner, ils mais... Ils ont pas le plus grand quarterback de l'histoire, bon, voilà.
Et Kurt Warner était pas un coureur extraordinaire.
Non, pas vraiment.
Avec tout respect. Par contre, Marshall Faulk, qui était un peu un autre joueur que Miles Sanders. Mais ça, c'est un autre
oui,
débat.
Oui, un peu au-dessus, c'est pour ça aussi. mais voilà. Ils avaient quand même 2 MVP hein, dans le...
Non, mais voilà, c'est la NFL d'il y a 20 ans, c'était pas la même chose.
Oui, c'est
mais,
pas pareil.
Mais oui, le côté rouleau compresseur, oui. Après... Moi, et justement, c'est là où les pertes de balles, c'est peut-être le seul moment où je vais évoquer, c'est que sur les 3 défaites des Eagles, il y en a 2 où ils perdent 4 ballons. Donc, ça arrive. Ça arrive ce match où ils pètent les plombs et ils perdent beaucoup de ballons. Et on sait que la défense des Niners, elle est très punitive. Donc, attention à prendre quand même soin du ballon, parce que autant les Niners, ils n'ont pas fait de match à 3-4 pertes de balles. Enfin, c'est pas vraiment la spécialité de la maison. Autant les Eagles, après un début de saison où ils perdaient pas le ballon, ils ont commencé à en perdre un camion en fin de saison. Donc attention quand même.
Quel scénario tu vois dans ce match?
Écoute, je vois une guerre des tranchées. Je vois 2 équipes qui se répondent l'une l'autre. Et tu vois ce genre de match qui va finir en 21-18, 24-21. 23-20, tu vois, ce genre de match vraiment où les attaques finiront par marquer, parce qu'il y a du talent, hein, on va pas se mentir, mais je vois pas une des 2 équipes marquer 40 points. Après, on sait jamais, hein, je veux dire, on se souvient tous du Super Bowl Broncos-Seahawks, qui devait être le match le plus incroyable de l'histoire, avec la meilleure attaque de l'histoire contre la meilleure défense de l'histoire, ça finit en 43-6.
Oui.
Donc, on sait jamais. Mais sur l'idée, moi, je pense que ça va être un match qui va se jouer par définition à la dernière seconde.
Ok. Moi, je vois bien vraiment une bataille avec un, je sais pas, un 23-17, tu vois, ou un... Du mal à voir une équipe marquée plus de 30 points, clairement.
Non, c'est clair.
Pronostic.
Bah, écoute, tu m'as dit la semaine dernière que, quel que soit ce que je pronostique, ça ne changerait rien au résultat final. Donc, je vais faire mon homer et je vais pronostiquer Philadelphia Eagles.
Je vais aussi sur Philadelphie. Du coup, c'est problématique. Enfin, c'est problématique. Il faudrait que je voie ton deuxième prono pour voir si j'en change un quand même pour essayer de revenir, parce que je veux avoir de la vista. Mais bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, je dirais Eagles, ouais. pour l'instant, je dirais Eagles.
Oui, parce que n'as pas donné le classement actuel des pronos. Les gens ne
oui,
comprennent peut-être pas. Mais...
Quand il n'y a plus que deux matchs, je ne sais plus trop si je dois le faire en ouverture ou à la fin, parce que je ne veux pas non plus que les gens pensent que c'est le seul intérêt du truc et qu'on commence par le
En tout cas, tu as deux points de retard et les matchs valent deux points. C'est pour ça, notamment, que c'est moi qui pronostique en premier. Ouais.
C'est ça, je vais rappeler les scores, t'as raison, maintenant qu'on donne un prono. La semaine dernière, Raoul a fait un sans faute quand même, il a pris 8 points puisque les matchs comptent double en play-off. Sinon, on a tous fait une erreur, moi c'était les Cowboys, vous c'était les Bills, et Raphaël a aussi fait une erreur sur les Cowboys. Donc Raphaël perd des points au classement, 186 pour Victor, 185 pour Grégory, 184 pour moi-même, 181 pour Raoul, 178 pour Lucas et 177 pour Raphaël qui est derrière maintenant, qui est désormais dernier.
Ah, c'est un choc assez incroyable parce qu'il était dans les leaders en milieu de saison. Hein.
Bah ouais, je suis en train de regarder comment on peut remonter dans le fichier. Je vais en semaine 10.
Et pourtant, 10, comme nous a dit Grégory, il n'a pas pris 15 points de pénalité pour transfert douteux. Hein.
Non, c'est vrai.
Contrairement
c'est vrai.
À son club si de cœur. Hein.
Si tu regardes en semaine 10, par exemple, il avait 8 points d'avance sur Lucas.
Non, mais
et il était devant toi.
Ouais, t'as vu.
Ouais. Bon, bah écoute, ça arrive.
Turning table, comme disent les Américains.
Ça arrive. En tout cas, donc, je vais dire les Eagles comme toi. Je suis un peu plus à l'aise sur celui-là que pour le suivant, tu vois, pour les pronos. On passe à l'AFC. L'AFC, ça se jouera dans la nuit de dimanche à lundi à 00h30. Ce sera donc entre les Chiefs, tête de série numéro 1, et les Bengals, tête de série numéro 3. Une énorme inconnue dans ce match, c'est l'état de la cheville de Patrick Mahomes. On en a un peu parlé dans l'émission de débrief. Et on vous le dit, on enregistre l'émission de preview un peu plus tôt cette semaine, mais on s'est dit que ça changerait pas grand-chose. Ce qui semble être sûr, c'est qu'il sera pas à 100%. Il souffre d'une entorse ligamentaire, il sera donc limité d'une manière ou d'une autre. Soit il aura un gros strap, soit il aura mal, soit les deux. Victor, est-ce que les Chiefs peuvent gagner sans un Mahomes à 100%? Puisque du coup, c'est la première question qui se pose, sachant qu'a priori, il ne sera pas à 100%. C'est sûr et certain.
Oui, je voyais beaucoup de podcasts d'anciens joueurs qui expliquait qu'en fait, ce genre d'entorse, sur le jour même, tu peux jouer, mais qu'en général, c'est le lendemain où tu peux plus marcher. De toute façon, on va avoir un jeu de poker menteur toute la semaine. Ne croyez rien de ce qui va être dit. La seule vérité, ça sera celle du terrain, et on verra dans quel état il est. C'est sûr que globalement, c'est quand même la... Quand tu as le meilleur joueur de la ligue, qui est incertain, ça change beaucoup de choses. D'autant plus qu'on rappelle que les Chiefs sont sur 3 défaites d'affilée contre les Bengals de Burrow. Saison régulière de l'année dernière, finale de conférence, saison régulière de cette année. Donc on est quand même sur une équipe qui a un avantage psychologique certain. Et si tu n'as pas ton facteur X Patrick Mahomes pour débloquer la situation, ça va vite devenir très compliqué.
C'est vraiment une grosse inconnue. Alors après, Andy Reid va devoir s'adapter, mais il peut le faire, notamment parce qu'il a Kadarius Toney et Jerick McKinnon, qui continuent de trouver petit à petit leur place dans l'équipe et qui peuvent servir un peu de soupape. On parlait de soupape pour Brock Purdy tout à l'heure. Là, t'as ces deux gars-là et t'as un jeu au sol qui a quand même sorti 144 yards contre les Jaguars.
Oui. De toute façon, t'as... ce que je disais, c'est que t'as un peu ces running back couteau suisse que sont Pacheco, que sont Jerick McKinnon, et qui peuvent apporter en effet et au niveau de la course et au niveau de la passe. Tu as une ligne quand même de Kansas City qui est bien meilleure qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc,
Il était mal, hein, sinon.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Donc dans l'idée, oui, c'est des équipes qui peuvent en effet... c'est une ligne qui peut tout à fait booster le jeu de course. Et ça restera pas facile de les bouger. Donc, le jeu de course, en tout cas, va devoir faire plus que sur certains autres matchs. Ça va devoir être quasiment l'égal du jeu de passe. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord.
Tu es la défense des Bengals, tu fais quoi? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, d'ailleurs?
Bah, déjà, je mets la pression sur Mahomes en début de match pour voir à quel point il est mobile. Parce que c'est quand même une info qui va quand même influencer tout ton plan de jeu. Si tu vois que Mahomes est une statue... tu vas commencer, à mon avis, à être très, très agressif. Si tu vois que c'est le Mahomes qui peut s'échapper comme il le fait d'habitude, tu vas essayer de prendre un peu moins de risques et de gagner tes 1 contre 1 contre les receveurs adverses qui ne sont pas des foudres de guerre. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que ton sujet numéro un, puisque Mahomes est une incertitude, c'est comment tu défends Travis Kelce.
C'était ma question suivante. 110 réceptions en saison régulière, 14 rien que sur le premier match de playoff.
Mais non, mais c'est un joueur aujourd'hui. Alors, il fait des réceptions très courtes. Hein. Les gens ne sont peut-être pas impressionnés par le total de yards. Mais il faut regarder à quel point ces réceptions, c'est tout le temps des first downs. C'est-à-dire, 3e et 3, il va faire 4 yards. 3e et 7, il va faire 8 yards. Alors oui, c'est sûr qu'il n'a pas 170 yards. En même temps, ce n'est pas un receveur. Hein. C'est un tight end. Mais clairement, c'est un joueur aujourd'hui qui est quasiment indéfendable. Et ça reste un gros problème.
Oui, et puis tu dis, il fait pas beaucoup de yards, c'est un tight end, etc. C'est juste qu'on s'est habitué à l'exceptionnel parce qu'il a quand même 1300 yards en saison régulière.
Non, mais évidemment.
À une époque, c'était pas si courant que ça pour
un
tight end.
Non, mais je parle de la semaine dernière où je pense qu'il fait 14 réceptions pour 90 yards, ce qui est rapporté aux yards par réception. Et peut-être pas impressionnant quand tu le regardes comme ça, mais c'est en effet un petit peu plus compliqué que ça.
Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'armes pour Kansas City quand même, malgré un Mahomes diminué. Donc, ce sera compliqué pour Cincinnati, mais c'est une équipe qui encaisse peu de points, qui est solide dans les moments chauds, on l'a vu contre les Bills. Après, il va falloir marquer un peu plus de points que Kansas City. La bonne nouvelle, tu l'as dit, c'est qu'ils savent le faire. Victoire 27-24 en saison régulière cette année, 27-24 l'an dernier en finale de conférence après prolongation, 34-31 la saison dernière en saison régulière. Vous avez vu le thème, hein, il n'y a que 3 points d'écart à chaque fois, pile poil. Qu'est-ce qui a fait aussi que Kansas City n'y arrivait pas sur ces matchs? Parce que tu disais tout à l'heure, il y a un petit avantage certain pour Cincinnati. Quel est cet avantage sur ces matchs-là?
Écoute, il est difficile à quantifier, pour être honnête, parce que finalement, surtout à finale de conférence, c'est quand même un écroulement comme on en voit rarement du côté de Kansas City, parce qu'à la mi-temps, il y a un truc genre 21-3, ou peut-être que j'exagère un peu, mais ça ne doit pas être loin de ça.
Oui, c'était large.
Écoute, on a une équipe de Cincinnati qui joue avec le cœur, qui est excellemment bien coaché. On a tapé hein, sur Taylor pendant quasiment plus d'un an, parce qu'ils font genre une victoire ou deux la première saison, mais alors depuis, ça marche quand même superbement bien. Écoute, c'est vraiment une équipe qui doit provoquer des turnovers, qui doit utiliser son explosivité en attaque. Encore une fois, je pense que la défense, elle doit contenir et provoquer des turnovers, parce que oui, c'est tarte à la crème, les pertes de balles, mais il y a quand même des défenses qui les provoquent un peu plus que d'autres. Et Cincinnati a un jeu très agressif qui peut entraîner quand même des pertes de balles. Donc voilà, c'est vraiment une défense qui doit faire son match et après, il faut espérer derrière que l'attaque performe.
Mais c'est une défense sous-cotée hein, quand même, Cincinnati, parce que je trouve qu'ils ont la meilleure défense de cette opposition-là, notamment.
Bah écoute, moi je dois t'avouer qu'il y a quand même... Là, on est en train de voir les fameuses interviews, tu sais, pour être head coach, etc.
Les entretiens d'embauche, ouais.
Lou Anarumo, le coordinateur défensif des Bengals, je ne comprends pas qu'il ne soit pas interviewé par littéralement toutes les franchises.
Ça, c'est dingue, ouais.
C'est invraisemblable.
Alors de l'autre côté, Kansas City a donc une défense qui est deuxième partie du tableau sur les yards encaissés dans les airs. Ils ont intercepté que 11 passes cette saison. Est-ce qu'il faut s'attendre à un festival offensif? On a beaucoup parlé de matchs défensifs dans la première finale de conférence. Là, pour le coup, oui, il y a Chris Jones qui sort d'un très gros match. Ils ont peut-être le plus gros talent défensif sur le terrain, les Chiefs. Oui. Mais on a l'impression qu'ils ne sont quand même pas assez denses pour bloquer l'adversaire, notamment en profondeur, notamment en couverture. Ils se sont fait dévorer par Jamar Chase et T. Higgins sur certains des matchs précédents. C'est quoi l'espoir de Kansas City? C'est d'écrouler cette ligne offensive bricolée là, des Bengals avec des blessés, etc., qui a tenu le match précédent. Cette fois, il faut l'attaquer?
Oui. Je veux dire, c'est objectif numéro un. Donc, Lyle Collins, on sait qu'il sera absent, hein, puisqu'il est out pour la saison, le tackle droit. Kappa et Jonah Williams, les tackle et le guard, enfin, respectivement, le guard et le tackle, sont incertains. Donc, est-ce qu'ils seront là? On ne sait pas. En tout cas, il y a quand même très peu de chances qu'ils soient là à 100%. Donc oui, l'enjeu numéro un, c'est Frank Clark, Chris Jones, etc., qui doivent mettre une pression de dingue à Joe Burrow. Après, la deuxième partie d'équation, et tu l'as bien dit, c'est que on a beau bien aimer Trent McDuffie et Jarius Sneed et Thorn Hill et Red, En face, il va falloir défendre Higgins, Chase, Boyd. Et on le sait, on l'a vu, Burrow, même sous pression, s'il faut lancer une bombinasse à 50 yards, il a des testicules de la taille de l'Amérique du Sud. Hein, donc, ça ne va pas lui faire peur. Hein. Donc, on l'a vu en universitaire, on l'a vu en NFL. C'est le mec qui va prendre tous les risques. Hein, donc, et il a des receveurs pour réceptionner ses ballons derrière.
Est-ce que le jeu au sol des deux côtés est le facteur X ? Parce qu'on l'a vu, mine de rien, il y a 144 yards pour les Chiefs au tour précédent au sol. Il y a Joe Mixon qui passe enfin les 100 yards sur le match précédent. Et c'est pas neutre, quoi. À chaque fois, on sent que ça donne une dimension qui rend ces attaques un peu injouables, quoi.
Je sais pas si au niveau des Bengals, on peut parler de facteur X, parce que Mixon, on sait qu'un match sur deux, il peut être décisif. Facteur X, ça reste la ligne pour moi. Ouais. Mais c'est sûr que le jeu au sol va être fondamental. Dans tous les matchs, hein, de toute façon, équilibrer une attaque, c'est en général assez fondamental. Je pense quand même que l'attaque des Bengals, globalement, vivra aussi avec la performance de la ligne. Par contre, du côté de Kansas City, oui, c'est le vrai facteur X pour moi.
Surtout avec un Mahomes sur une jambe. Voilà. C'est surtout ça. Et puis ça pourrait aussi servir à tuer le match. C'est pas trop dans les habitudes de ces deux équipes, mais mine de rien, une fois que t'as pris l'avantage, alors c'est pas Philadelphie ou San Francisco, hein, ils vont pas courir comme des fous pour tuer le match, mais mine de rien, quand t'as une attaque en face qui carbure, qui peut mettre des points rapidement, demander aux Bills l'an dernier ou l'année d'avant, enfin quand ils perdent sur les quelques secondes contre les Chiefs, ce serait bien aussi d'avoir du jeu au sol pour terminer le match. Je sais pas si ce sera au programme, mais bon, voilà. On l'a dit, ballon perdu, kicker éventuellement. Les trois matchs gagnés par les Bengals étaient très proches, donc les kickers auront évidemment beaucoup de pression. Scénario et pronostic, Victor.
Bah écoute, je suis parti du principe que Mahomes n'avait qu'une jambe. Et du coup, je vois une victoire sur un field goal de 43 yards à la dernière seconde des Bengals.
C'est précis.
Un petit 27-24. Voilà. Donc, évidemment, n'hésitez pas à me taguer si ça arrive vraiment. Je vous donnerai le numéro du loto. Mais...
Alors, tu sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on nous tague que quand on a eu tort. Quand on a raison, les gens n'y pensent pas du tout.
Je sais. Mais en tout cas, je vais partir sur Bengals.
En tout cas, généralement les supporters, c'est-à-dire que jamais ils te diront « Ah ouais, vous aviez bien vu le coup ». Non, non, en général, ils viennent vers toi si t'as fait une erreur.
Ah, ils vont te ressortir ton tweet du 3 août où t'as dit que leur équipe était peut-être pas favorite et ils vont dire « Alors, hein, c'est voilà, qui rigole hein, maintenant ?»
C'était qui les underdogs? Personne n'a jamais cru en
Personne
nous.
Personne n'a cru en nous.
Voilà. Il faut arrêter avec ça. Si vous êtes supporter, arrêtez avec ça. Surtout si vous êtes une équipe qui était au Super Bowl l'an dernier ou qui était tête de série numéro 1 ou qui était tête de série numéro 2.
Georgia, Georgia qui était tenant du titre en universitaire, tête de série numéro 1 et qui a regagné le titre cette année, ils ont joué la carte de personne a cru en nous. Hein. Donc, bon,
quelle blague.
Il n'y a plus de limite, hein, tu sais.
Quelle blague. Bref, donc tu prends les Bengals. Écoute, je l'ai dit, il faut avoir de la vista. Chiefs pour moi. Pourquoi ? Parce que les Bengals sont sur 10 victoires de suite, qu'ils ont battu les Chiefs 3 fois de suite, que Patrick Mahomes est sur une jambe, donc je vais prendre les Chiefs. Ça me paraît logique. Et puis je l'ai dit, tous les pronostics où j'étais genre sûr de moi et tout, ils sont pas passés. Donc autant en faire un où je suis pas trop sûr de moi. Je pense franchement que c'est... Je sais même pas si c'est un 50-50, je pense que c'est un 51-49 Bengals avec Mahomes sur une jambe. Mais je vais dire les Chiefs parce qu'il peut se passer des trucs fous en finale de conf. Et puis je vois en plus que Grégory a pris Bengals. Donc bah voilà, c'est la vista. C'est-à-dire que moi là, si je prends ce point-là, je reviens à égalité avec toi et je dépasse Grégory. Donc on se jouerait le titre sur le Super Bowl. Et donc voilà, j'aime bien cette idée-là. Si j'ai faux, et bah je serai hors course et vous serez tous les deux en course pour le Super Bowl et au moins j'aurai joué ma carte jusqu'au bout.
Ah non mais Greg tactiquement il fait un truc, il joue la même chose que moi, donc il mise sur le fait que tu te viandes. Hein,
bah, et puis là et du coup il jouera tout sur le Super Bowl.
Et que du coup il jouera tout sur le Super Bowl contre moi. Mais là où sa stratégie est un peu bizarre, c'est que tu l'as dit, hein, si tu repasses devant là, et que nous deux, on est à égalité devant, bah, il pourra mettre ce qu'il veut pour le Super Bowl, il aura perdu quoi qu'il arrive. Parce que, évidemment, au Super Bowl, toi et moi, si on est à égalité, on ne va pas mettre la même chose. Hein. Bah, se mentir, il faut un peu d'enjeu quand même.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je ferais, tu vois, en cas d'égalité. Je ne sais pas si je pronostiquerais par rapport à toi, mais on n'en est pas là.
Je
n'en ai pas
tiré sur la copette. Moi, je pronostiquerais par rapport à toi. Voilà.
Moi, je suis déjà en poursuite, là. Je ne suis pas dans l'échappée de tête, donc je ne suis pas à penser à la victoire, là. Je ne pense pas à mon sprint. Donc, Bengals pour toi, Chiefs pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être vraiment, vraiment deux matchs superbes. On vous rappelle, 21h pour le premier, ce sera la finale de conférence NFC entre les Eagles et les 49ers, donc à Philadelphie. Minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi pour la finale AFC entre les Chiefs et Cincinnati. Ce sera du côté de Kansas City. On termine avec les cotes. On termine donc avec les cotes de la semaine. Ça va être du côté de chez notre partenaire Unibet, évidemment. Et on n'a plus que deux matchs. Hein. Donc là, il n'y a pas un milliard de choix. Quelle cote tu préfères ?
Bah écoute, malheureusement pour mes piou-piou, j'ai envie de te dire que quand je vois que les Niners sont la seule équipe qui ont une cote au-dessus de 2, si t'y crois, ça donne envie, quoi. Mais après, si on part du principe qu'on a tous les deux misé Eagles, mais que sur l'autre match, on n'est pas d'accord, la cote la plus élevée, c'est pour toi, c'est Kansas City à 1,88.
Ouais, moi, c'est celle que je tenterais si je dois en tenter une. Je sais pas pourquoi je crois moins aux Niners. C'est bizarre. Hein.
Ah bah, surtout qu'ils ont gagné genre 12 matchs d'affilée. Donc,
bah oui. Non mais oui.
T'es beaucoup
mais
plus confiant pour les Eagles que moi. Hein.
Bah ouais, je sais pas pourquoi. Je pense que là, c'est pour que leurs supporters puissent me dire « Tu vois, tu croyais pas en nous, tu es un hater et tout. » Je sais pas. Non mais je sais pas pourquoi je suis plus confiant. Après, je sais pas pourquoi je suis plus confiant en Philadelphie. C'est toi-même qui m'as dit toute l'année « Vegas, c'est mieux que nous. » La cote de Philadelphie est la plus basse, tu vois. Donc,
Ouais, Vegas knows better. Bah oui, peut-être. Écoute... J'espère. Moi, je croise les doigts.
Voilà. Donc, on prend quoi sur les deux cotes ? On tente les Chiefs 1,88 ?
Ouais.
Et pour l'autre, on prend quoi ? On prend les Niners ou les Eagles ?
Bah, les Niners pour la cote. Hein.
Ah ouais. Bon, bah, je te suis parce que tu me dis que c'est un 50-50, mais vraiment, moi, j'irais plus sur Philadelphie, mais pourquoi pas. Niners 2,09, Kansas City Chiefs 1,88, 5 euros misés, 19,65 euros de gains potentiels. Bah du coup c'est le YOLO en même temps puisque c'est les deux outsiders.
Bah écoute, on arrive à un moment où je suis désolé mais on veut bien là, donner des YOLO etc. Mais
Là il y a que deux matchs. Si tu veux, Philadelphie gagne de 18 points ou plus, 4,85 hein, si tu veux du YOLO.
Oui, bien sûr. Non mais aucun problème. Philadelphie marque 50 points, tu me donneras la cote aussi.
Ça va déjà être dur de mettre 18 points, donc je sais pas si 18 points d'écart, ça va être... Alors attends, Philadelphie met 50 points, je sais même pas s'il y a une cote là-dessus. Première mi-temps, gnagnagna.
Non mais je pense qu'en fait, un plan de jeu qui serait intéressant, c'est on trade pour Jared Stidham, parce que c'est le seul mec qui a fait déjouer les Niners, et tu vois, on met Jared Stidham en titulaire.
Il n'y a pas encore les marqueurs de touchdown au moment où on enregistre, donc je voulais voir s'il y avait un petit marqueur de touchdown ou pas. Mais... Non mais alors tu vois, total de points, prolongation incluse, c'est intéressant ça. Points cumulés,
oui.
Moins de 36,5 points.
Ouais, donc tu vois, 18 chacun, c'est un peu le range qu'on a donné, hein. À mon avis, il y a plus de chances que ça finisse dans un 19-12 comme le Cowboys Niners que dans un 43-41.
Et donc, moins de 36,5 points, ça fait... la cote est à 3,05.
Moi, je prends plus, par contre. Je prends un tout petit peu plus.
Ah, tu prends plus ?
Ouais.
Ah, mais alors, le plus, c'est à 1,23.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais. Donc, tu peux tenter moins de 38,5 ?
Ouais, 38,5. Vas-y.
Moins de 38,5, c'est 2,60.
Ok.
Voilà. Donc je vous rappelle évidemment que vous pouvez pimenter un petit peu comme ça hein, quand il n'y a que deux matchs, vous pouvez aller chercher des cotes un peu plus approfondies. Nous on vous donne toujours les basiques, on n'est pas des experts parieurs complètement, on s'amuse avec les cotes simples, mais évidemment sur Unibet vous pouvez aller en profondeur, vous avez les totaux de points, les écarts entre les deux équipes. Tiens, si tu veux t'anti-jinxer, t'as San Francisco gagne de 10 ou plus qui est à 3,70.
Écoute, restons raisonnables, n'insultons personne.
Alors mine de rien, San Francisco gagne de 7 ou plus, c'est-à-dire un touchdown, la cote est à 2,98.
Oui, oui. Très bien.
Ça commence à monter, hein, mine de rien. Bon. Voilà pour les codes de notre partenaire Unibet. C'est unibet.fr. Je vous rappelle évidemment qu'il faut jouer de manière raisonnable, vous fixer des limites et vous faire aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 579. Je crois que j'ai dit une erreur dans la numérotation de l'épisode d'hier. Je veux pas dire de bêtises, mais bon, bref. En tout cas, c'est 579 celui-là. J'ai recompté tout à la main.
Non, mais t'as bien dit 78 dans le podcast d'hier.
Ah, j'ai bien dit 78 hier. Alors, c'est dans mes notes, en fait, parce que là, j'ai 580 dans mes notes pour celui-là, alors que c'est 579. Donc, 579 du podcast John Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie de nous soutenir sur Tipeee si vous le faites, de nous laisser des notes, des commentaires, des étoiles, tout ça, sur les applis de podcast. Ça nous aide à monter dans les classements. Ça coûte rien, donc n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, et TikTok @TDActu, @VictorRoulier pour Victor sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même, toute l'actu de la NFL sur TDActu.com. On parle de quoi ? Alors, demain, c'est le replay du fauteuil avec les trophées de fin de saison. Et vous parlez de quoi dans la draft vendredi ?
Dans l'épisode 580, du coup, nous allons nous poser une question. Chicago doit-il trader Justin Fields et sélectionner un quarterback ?
Ah, j'aime. Hey, j'aime quand vous faites des titres comme ça.
Mais tu
ça
sais me... que Jean-Michel, il a là en ce moment, il est chaud.
Là, on voyait le thème. J'ai dit, mais go, vas-y. on est pas. Vas-y, tous les jours, toutes les semaines, je veux que vous titriez les émissions comme ça. Là, ça me titille. J'ai envie de cliquer et d'écouter tout de suite. Le podcast rétro, je ne sais pas encore c'est quoi. Il faut que je le sélectionne et que je mette ça en ligne. Et on vous prépare un gros programme aussi pour les deux semaines pré-Super Bowl. Il va y avoir quand même pas mal de choses. Donc, il y a ça aussi qui est en cours de préparation. Merci encore, Victor.
Eh ben, merci à toi. Merci à tous.
Et on se retrouve très vite sur les antennes de TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.